J'ai intitulé cette prédication « Qui est mon prochain ?» Un dimanche matin, un homme descendait de Ménilmontant à Père-Lachaise. À la sortie du métro, il tomba sur une bande de voyous qui le dépouillèrent de ses quelques pièces, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant inanimé. Le pasteur de l'église évangélique voisine passait par là. Hanté par le sermon qu'il devait prêcher un peu plus tard, il remarque bien la silhouette à terre, mais déjà extrêmement en retard, il pria intérieurement, « Seigneur, envoie des secours à ce malheureux. Moi, je ne puis m'en occuper, car ma matinée est déjà consacrée à ton service. Amen. » Quelques minutes plus tard, c'est un membre de la même église qui se rendait lui aussi au culte et qui passa près de lui. Mais il était encore plus en retard. En plus, c'est lui qui préparait la Sainte Cène. Il dévalait rapidement les escaliers roulants afin de gagner du temps. Notre croyant moderne aperçut l'homme au sol et pensa « Quelqu'un a sûrement dû prévenir les secours, ils ne vont pas tarder. Mais Seigneur, que cette ville devient de plus en plus violente. Seigneur, tu devrais intervenir pour faire cesser tout ce mal. » Quelques minutes après, un Rom passa par là. Immigré depuis 3 ans à cause de l'insécurité dans son pays, il parlait encore mal notre langue et on le regardait souvent de travers. Quand il vit l'homme, son cœur fut touché de compassion. Il s'arrêta et avertit les secours. En attendant, avec quelques mouchoirs, il commença à nettoyer les plaies, à donner les premiers soins, à rassurer de son mieux le blessé et à le réchauffer avec son manteau. Les pompiers arrivèrent, prirent le blessé en charge. L'un des pompiers demanda à l'étranger s'il désirait l'accompagner, ce qu'il accepta. Le voici maintenant, patientant de longues heures dans une salle d'attente des urgences de l'hôpital du quartier. Pourtant, il ne connaît même pas le nom du blessé. Lorsqu'on lui annonce qu'il est revenu à lui, il va le voir, lui donne quelques pièces d'argent, s'assure qu'il sera bien soigné et promet de revenir le voir dans 2 jours. Un petit conte moderne. Je vous invite à lire quelque chose de plus biblique, mais vous verrez qu'il y a quand même quelques ressemblances. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, c'est une conversation entre Jésus et un homme que la version de la Bible que j'ai appelle un docteur de la loi. Luc 10, à partir du verset 25. Voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une bonne question quand même, hein ? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite, c'est-à-dire un servant du temple, arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Je vais vous mettre un petit plan. Alors, c'est encore de la récup, hein, donc vous m'excuserez si le transparent n'est pas parfait. Il paraît que ça s'appelle un nid de cigogne. C'est pas que je sois radin, hein, c'est dans un but écologique. Alors j'aimerais vous parler d'abord des Samaritains. Qui sont les Samaritains ? Ben, les habitants de la Samarie, vous savez que le pays d'Israël, au moment où Jésus, au moment de la vie de Jésus, est divisé en 3 parties. Une partie tout au sud, la Judée, autour de Jérusalem, où vivent les juifs bien, on va dire, hein, ceux qui se considèrent comme les vrais. Une partie au milieu, on en parlera après, et une partie au nord, où a vécu Jésus dans sa jeunesse, Nazareth, autour du lac de Galilée, et qui s'appelle la Galilée. Là vivent des juifs que ceux du sud, bon, sont juifs. Mais ce ne sont pas juifs de Judée, quoi. Hein? Ceux du sud les regardent un peu comme des citoyens de deuxième catégorie. Et au milieu, il y a une province qu'on appelle la Samarie. Et dans cette Samarie vivent des gens qui s'appellent des Samaritains et qui ne sont pas des juifs. Qui sont, vous savez que dans l'histoire mouvementée du peuple d'Israël, il y a eu des déportations. Et lorsque le peuple a été déporté, le pays n'est pas resté vide. Des gens sont venus habiter dans ce pays qui avait été vidé par les conquérants. Et quand la déportation a pris fin, que les gens sont revenus, que des juifs sont revenus, ils ont trouvé un peuple là qui avait occupé les lieux. Et ils ont cohabité avec ce peuple. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Israël, avec les Israéliens et les Palestiniens. Et comme à notre époque, ça ne se passait pas très bien déjà à cette époque. Et les Juifs regardaient les Samaritains de haut en disant « Mais bon, ça c'est un peuple impur, un peuple qui n'adore pas vraiment notre Dieu, même s'ils le disent, qui pense qu'il faut aller prier sur le mont Garizim et non pas à Jérusalem, et en fait, il y a une espèce de statu quo qui font qu'ils ne se parlent pas. Ils sont côte à côte, mais ils ne se parlent pas. Alors, pour bien comprendre cette parabole, il faut la replacer dans son contexte. Première étape, une question du docteur de la loi, c'est-à-dire, c'est un enseignant de la loi religieuse, un professionnel de la religion hébraïque. Pour aller plus vite, je l'appellerai le légiste. Et il pose une question à Jésus. Et Luc nous fait remarquer qu'il ne le fait pas juste pour avoir un renseignement. Il le fait pour le mettre à l'épreuve, pour le tester. Sans doute un peu ironiquement, il l'appelle Rabbi, Et probablement cet enseignant qui est Jésus, qui est très anticonformiste, probablement il l'agace un peu. Toutefois, sa question est intéressante. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je pense que vous êtes assez intéressé, vous aussi, par la réponse de Jésus. C'est quand même pas une mauvaise question. Une petite particularité, c'est que si on regarde le temps en grec du verbe qui est employé, c'est un temps qu'on appelle laoriste, c'est-à-dire quelque chose qui indique une action qui est finie. On devrait pouvoir traduire « que dois-je avoir fait ?» entre sous-entendu « une fois dans ma vie ».« Que dois-je avoir fait une fois dans ma vie pour obtenir la vie éternelle ?» Et on va voir que quand Jésus va lui répondre, il va lui répondre avec un présent. Fais cela, c'est-à-dire quelque chose qui dure, et non pas une fois en passant. Alors comment va répondre Jésus à cette question? Vous avez vu Rabbi Jacob? Non? Vous n'avez pas vu le film Rabbi Jacob? Dans Rabbi Jacob, hein, on dit qu'un juif répond toujours à une question par une autre question. Hein? Il faut bien reconnaître que c'est souvent la technique de Jésus. Parce que ça lui permet de savoir ce que les gens veulent vraiment. Donc il répond par une autre question. Que dit la loi? Et ce qui est rigolo, c'est la question qui est double. Qui lis-tu? On peut traduire aussi, comment la lis-tu? C'est-à-dire, non seulement, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle dit? Mais comment est-ce que tu la comprends? Alors le légiste répond de façon très académique en récitant la loi que Dieu a donnée à Moïse qui exige l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Fais cela, lui dit Jésus, et tu vivras. Voilà, la question ne se pose pas. Et l'échange pourrait s'arrêter là. Le légiste pourrait conclure, oui, mais j'y arrive pas. C'est difficile. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Mais j'y arrive pas. Vous y arrivez, vous? Même Cathy n'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Aimer votre prochain comme vous-même, vous y arrivez, vous? Tout le temps, tous les jours? Ça dépend qui est le prochain. Voilà. Et bien, c'est exactement comme ça qu'a raisonné notre légiste. Ça dépend qui est le prochain. Il y a des prochains où ça peut se faire, il y a des prochains où c'est difficile. Donc, deuxième étape, nous dit Luc, voulant se justifier, deuxième étape, qui est mon prochain? Et il faut reconnaître qu'à cette époque-là, c'était compliqué quand même. Parce que pour ces juifs qui étaient là, il y avait les juifs. Là-dedans, il y avait différents partis. Les évangiles nous montrent les pharisiens, les sadducéens, nous montrent aussi les gens qui étaient pour Hérode, le roi, les hérodiens. Mais il y avait aussi, on l'a vu, les samaritains qui étaient là au milieu. Et puis il y avait les Romains. Nous sommes dans un pays occupé par les Romains. Et les Juifs religieux de cette époque se creusaient la tête en disant « Mais c'est très difficile d'aimer tout ce monde-là. En plus, il y a des gens qui nous ont envahis. Il y a les Romains, c'est carrément nos ennemis. » Et ils avaient mis au point toute une classification de gens selon qu'ils appartenaient à tel ou tel groupe, et ils disaient, ben voilà, mon prochain, c'est les autres pharisiens. Alors ceux-là, je les aime. Et puis les autres, je ne me sens pas appelé à les aimer. Et déjà Jésus, dans le sermon sur la montagne, avait dénoncé ce genre de choses. Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Vous pouvez regarder, tant que vous voudrez dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas cette phrase-là. Vous ne trouverez pas, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était la tradition qui avait rajouté ça. Et Jésus va corriger. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Wow. Difficile hein, comme programme. Donc, qui est mon prochain? Et Jésus va raconter sa parabole. Il faut remarquer que la parabole que Jésus va raconter est la suite logique de la discussion. Il y est bien question d'aimer son prochain. Et on va garder dans notre tête que tout ça se replace dans la question première, comment dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre une parabole? On regarde la conclusion. Voilà. C'est comme les fables de La Fontaine. On regarde la conclusion, c'est ce qui nous donne la clé de la parabole. Ici, la clé est un peu curieuse. Le légiste devait s'attendre, après que Jésus lui ait raconté sa petite histoire, à ce qu'il lui demande « Le blessé, est-il ton prochain ?» Et ce n'est pas la question de Jésus. Jésus lui demande « Lequel des trois semble avoir été le prochain du blessé ?» Lequel s'est montré le prochain du blessé ? Lequel s'est comporté comme étant le prochain du blessé ? Et Jésus souligne ainsi qu'aimer son prochain, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de comportement, c'est faire quelque chose, c'est agir. On va baisser un peu le... Voilà, très bien. Alors, que devait comprendre le légiste? Qu'est-ce que Jésus a voulu montrer dans cette parabole? Donc, je ne vous la lirai pas, je vous en ai donné deux versions, hein, une modernisée et l'autre garantie d'époque. Donc, trois personnes se sont présentées devant ce blessé, et les deux premiers, c'est des religieux professionnels. C'est pour ça que je les ai transposés par un pasteur, excusez-moi messieurs, et puis aussi pour des hommes d'église comme nous pouvons l'être tous. Et le légiste va comprendre qu'il n'est pas besoin d'être religieux professionnel pour se comporter comme Dieu le souhaite. Ici, celui qui accomplit la loi, c'est-à-dire le désir de Dieu, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le lévite, c'est un samaritain. Quelqu'un que le légiste pensait totalement inapte à se conformer à la loi de Dieu. Mais c'est un homme qui s'est laissé émouvoir par autrui. Et Jésus avait remarqué le défaut des religieux de son temps. Il dit en Matthieu 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites !» Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis, le cumin, et vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Pourquoi l'anis, la menthe et le cumin? Parce que c'était... Vous savez que les juifs fidèles devaient donner la dîme, dixième partie de leur revenu pour le service de Dieu. Et certains poussaient, alors évidemment il y avait les récoltes officielles, et puis il y avait ce qu'on récoltait en bordure des champs, la menthe, l'anis, le cumin, qui était plutôt des cueillettes sur le bord des chemins, et certains s'acquittaient scrupuleusement, même ceux-là, d'en donner la dixième partie, histoire de se dire, on fait vraiment ce que Dieu nous demande. Eh bien non, dit Jésus, c'est pas ça que Dieu vous demande. Ce qu'il vous demande, c'est la justice, la bonté, la fidélité. Mais, quand même, tous n'étaient pas aussi bornés. En Marc 12, quelqu'un demande à Jésus, c'est un peu la situation inverse de notre parabole, de notre passage d'aujourd'hui, quelqu'un demande aujourd'hui quels sont les commandements les plus importants de la loi. Et Jésus va dire ce qu'a dit notre légiste aujourd'hui. Et un scribe réagit, et il lui dit, Marc 12, verset 32, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Deuxième chose que le légiste aurait pu comprendre, tu peux baisser un tout petit peu. Voilà. On ne choisit pas forcément son prochain. Contrairement à ce que lui avait dans sa pensée, qui était de faire des classifications, lui c'est mon prochain, lui ça se discute, à lui pas du tout. Le Samaritain, lui, il a dû improviser. Il n'avait sûrement pas prévu qu'il faudrait qu'il s'occupe d'un blessé. Il voyageait et il n'avait pas programmé cette rencontre. Le prochain, comme le mot l'indique, c'est celui qui est proche. Sous ses yeux de légiste, c'est celui que les circonstances lui montrent. Ce n'est pas seulement celui qui appartient à la même catégorie sociale que lui, au même peuple que lui. Ce n'est pas celui qui peut lui donner quelque chose, mais celui qui a besoin de lui. Et puis la troisième chose, c'est que aimer son prochain, ce n'est pas une affaire de sentiment, on l'a vu tout à l'heure. C'est une affaire d'action. C'est parce qu'il était dans le besoin que le Samaritain a été ému par cet homme. Sinon, il ne l'aurait pas regardé. Mais il ne s'est pas contenté de ressentir de la pitié. Si on ne veut pas caricaturer le rôle du prêtre, du sacrificateur et le rôle du lévite, on peut penser qu'ils ont peut-être prié dans leur cœur pour cet homme-là. Ils s'en sont peut-être pas complètement désintéressés. C'est pour ça que dans ma version moderne, j'avais montré qu'on peut quand même dire « Seigneur, aide-le ». J'avais lu quand j'étais ado, un bouquin de Richard Wurmbrand qui s'appelait « Mes prisons avec Dieu ». Et dans lequel, c'est donc l'histoire d'un pasteur en Roumanie, c'était l'époque du régime communiste, et qui est emprisonné pour sa foi en Roumanie. Et en discutant avec quelqu'un dans sa prison, il lui dit « Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous qui êtes athée. » Parce que moi, quand je vois quelqu'un dans le besoin, j'ai toujours la ressource de dire « Seigneur, aide-le ». Mais vous qui ne croyez pas en Dieu, ben vous êtes obligé de tout faire tout vous-même. Quand on fait un aparté, on a la peine à reprendre après. Ce Samaritain ne s'est pas contenté de ressentir de la pitié, il l'a aidé, le blessé. Il s'est compromis, il a risqué sa vie. On était sur une route dangereuse. Rester là, soigner cet homme, c'était s'exposer au même désagrément que lui. Il a perdu du temps. Il a perdu de l'argent. Il s'est peut-être même compromis aux yeux des autres Samaritains. Qu'est-ce que tu vas t'occuper de ce juif qui nous méprise ? toutes choses que le légiste devait apprendre. D'où la conclusion de Jésus, va et fais de même, et fais pareil. Et c'est un présent cette fois, c'est pas fais-le une fois, c'est fais-le tout le temps. Alors vous me direz, c'est un peu loin. Qu'est-ce qu'on va appliquer pour nous de cette parabole aujourd'hui? Je crois que tu peux enlever complètement. Voilà. Tu n'es pas plus lisible vers la fin. Cette parabole, pour nous, c'est une exhortation. Et quand je dis la parabole, je veux dire même le cadre tout entier dans lequel elle se situe. Reconnaître que la loi de Dieu n'a pas changé. Que nous devons toujours aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et toujours aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'était le désir de Dieu à cette époque, c'est toujours le désir de Dieu maintenant. Et reconnaître que si nous faisons cela, si nous le faisons parfaitement, constamment, toute notre vie, nous mériterons la vie éternelle. Mais reconnaître aussi que nous ne le faisons pas. Ce que n'avait pas accepté le légiste, c'est de se dire que nous sommes incapables, indignes de réclamer un tel héritage. Alors, puisque nous sommes indignes, il faut compter sur la grâce de Dieu, sur sa bonté, sur son pardon. Nous sommes sauvés, puisque nous ne méritons pas la vie éternelle et Dieu va nous la donner quand même. Nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes sauvés pour agir. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car dans notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Ce que Paul écrit aux Éphésiens, c'est que les œuvres que nous pouvons faire ne sont pas là pour nous sauver, mais c'est le contraire, c'est que notre salut est là, est un point de départ pour des œuvres que Dieu a préparées, a semées devant nous pour que nous les accomplissions. L'apôtre Jacques, dans son épître, avait ce souci-là. Et il dit par exemple, il le dit à plusieurs reprises dans l'épître, mais par exemple au passage 2, verset 14, « Mes frères, à quoi bon de dire qu'on a la foi si on ne fait rien? Cette foi-là peut-elle sauver ?» Et dans d'autres passages, il va s'interroger, est-ce que c'est la vraie foi, cette foi-là? Sachons entendre la voix de Christ qui nous dit « Va, fais de même, aime, porte secours à celui qui souffre, sois attentif aux détresses d'autrui, sois prêt à donner de toi-même, à donner du temps, à donner de l'argent pour celui qui en a besoin. » Paul dit aux Galates « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et demandons au Seigneur, nous aussi, qui est mon prochain? Non pas dans le même but que le légiste, qui était surtout un but d'exclure, d'enlever des personnes, mais au contraire dans le but que le Seigneur nous aide à discerner celui qui est proche de nous, prochain ça veut dire proche de nous, qu'il voudrait que nous aidions, qu'il voudrait que nous aimions. Un prochain, c'est un proche ça sert à rien de dire « j'aime tous les Chinois ». Enfin, ceux qui sont en Chine, hein. Mais Jésus peut nous demander de prendre en considération un Chinois qui souffre à notre porte, que nous côtoyons, un Chinois ou autre. Soyons attentifs à ne pas classer les gens par catégorie. En ce moment, j'ai l'impression qu'on nous pousse à classer les gens par catégorie. Il y a les gens du voyage, les Roms. Il y a les Nord-Africains. Il y a les Africains. Il y a les RMistes. Enfin, on ne dit plus comme ça. Et qu'il est tellement facile pour nous d'intégrer ce genre de choses et d'avoir un peu la même réaction que notre légiste, c'est-à-dire de classer les gens, disant ceux-là, bon, il faut, oui, ceux-là, ils sont des gens fréquentables, on peut les aimer. Et puis ceux-là, non, c'est pas... Chacune de ces personnes est différente, avec ses richesses, avec ses faiblesses. Mais Dieu les aime tous. Dieu voudrait tous les avoir dans son ciel. Alors, juste un petit aparté, il y a une autre façon de comprendre cette parabole qui a été assez développée pendant l'histoire de l'Église, c'est d'y voir une figure de Christ, de Jésus, le meilleur des bons samaritains, venant secourir les hommes blessés par le péché, morts dans leur faute et dans leur péché, comme dit Paul. Et pendant des siècles, cette parabole était comprise de cette façon, ce qui n'est pas faux. Jésus est bien le vrai samaritain qui est venu secourir les hommes. Nous l'avons encore manifesté aujourd'hui par la Sainte Cène. Il a été l'homme méprisé. Il est venu à notre secours en offrant même sa vie pour sauver la nôtre. On connaît ce passage, Romains 5:8. Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Et ces deux façons de comprendre qui se rejoignent, car nous sommes aussi appelés à imiter le Seigneur. Vous savez, il l'a rappelé à ses disciples quand il leur a lavé les pieds. C'était au moment du dernier repas. Il leur dit, je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. Et Jean, dans sa première épître, se pose la question, comment est-ce que nous pouvons reconnaître que nous sommes vraiment chrétiens ? Je vous écoute. Comment est-ce que vous savez que vous êtes chrétien ? À l'amour que nous avons les uns pour les autres, et les autres, tant pis. Les autres. Bon. Qui est mon prochain ? Qui est l'autre ? Je vous donne 7 réponses, il peut y en avoir d'autres. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme Jésus a marché. Alors, je pense que ça ne veut pas dire marcher sur l'eau, hein. Mais doit marcher avec le même souci d'honorer Dieu, le même souci d'aimer son prochain. Et on a vu aujourd'hui dans ce que nous a lu Philippe que aimer son prochain pour Jésus, c'était pas faire d'exclusion. Notamment s'approcher d'un lépreux, c'était tout à fait révolutionnaire à cette époque-là. Même les pécheurs, hein, c'était pas forcément les gens qui étaient très bien vus. Alors je vous invite à prier. Seigneur, toi qui es notre maître, tu m'as donné la vie éternelle. Tu me l'as donnée alors que j'en suis indigne. Mais tu me l'as donné parce que tu m'aimes et que tu as tout pourvu pour cela. Et tu m'as donné aussi l'exemple d'un amour parfait. Apprends-moi, Seigneur, à vivre chaque jour de cette vie, à témoigner de cet amour, à apporter la vie à tous ceux que tu montreras. La vie pour aujourd'hui, le secours dont chaque personne a besoin, et aussi la vie éternelle, en parlant de toi. Aide-moi, Seigneur, j'en suis incapable. Mais Seigneur, tu peux me donner les forces, et je te les demande. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre mes mains. Rends-moi aimant, compatissant, comme toi tu l'as été.